Merci Christian, merci. Je suis très heureux de me retrouver parmi vous aujourd'hui. J'avais déjà eu le privilège de venir quelques fois, une autre fois déjà pour prêcher, puis d'autres fois en tant que participant. Et c'est toujours une joie de se retrouver dans une autre église avec quelques visages qu'on reconnaît, d'autres qu'on connaît moins, mais de savoir que voilà, ensemble on est frères et sœurs et qu'on peut louer Dieu ensemble. Et spécialement aujourd'hui, alors qu'on veut être solidaire aussi avec l'église persécutée. Ce thème de l'église persécutée, c'est un thème qui me tient à cœur et je me réjouis aussi d'avoir l'occasion de vous dire un mot sur notre travail à l'ONU. Mais avant d'entrer dans ce travail, il y a un texte qui m'est venu cette semaine quand je préparais cette thématique et qui me semblait bien approprié pour aujourd'hui et que je voulais vous lire en deux parties. C'est un texte qui se trouve dans le livre d'Esther. Et ce que je vais vous lire, c'est les quatre premiers versets du chapitre, et ensuite un petit peu plus loin dans ce même chapitre 4. Donc, je vous lis. « Informé de tout ce qui se passait, Mardochée déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et de cendres, puis sillonna la ville en criant à pleine voix son amertume. Dans chaque province, partout où arrivait le message du roi, qui avait valeur de loi, les Juifs menaient grand deuil avec jeûne, pleurs et lamentations. » Beaucoup avaient pour lit le sac et la cendre. Lorsque ses servantes et ses eunuques vinrent lui rapporter ce qui se passait, la reine Esther en fut toute bouleversée. Elle fit parvenir des vêtements à Mardochée pour le pousser à s'habiller et à retirer son sac, mais il ne les accepta pas. Voilà un contexte de persécution, un peuple qui est sur le point de... qui est menacé de disparition. Je pense pour la plupart d'entre vous, vous connaissez l'histoire. Un complot a été monté par un homme, un Amalécite qui avait en horreur le peuple juif et qui avait aussi un conflit personnel avec Mardochée, quelqu'un qui l'haïssait tout spécialement. Et donc il arrive à monter un complot, à acheter le roi pour monnayer un projet de génocide sur le peuple juif qui devait disparaître. Ça se passait au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et donc on a cette réaction du peuple d'Israël qui est évidemment catastrophée parce que son existence même est menacée et il n'a aucun moyen de se défendre. À ce moment-là, la situation paraît spécialement désespérée. Et cette situation-là, c'est quelque chose, je pense, qui concerne aussi à certains endroits, l'Église persécutée d'aujourd'hui où, au premier abord, on a l'impression que l'Église est en voie de disparition. Voilà, on le sait... que dans bien des pays du monde, cette persécution est forte. C'est le cas, par exemple, au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, selon les pays, sur les 7 à 15 dernières années, dans bien des pays, la population chrétienne a diminué de moitié. Alors, quand on parle de population chrétienne, c'est aussi une population de tradition chrétienne. Hein, il faut voir qu'il y a une certaine diversité là, dans ce christianisme aussi au Moyen-Orient. Mais beaucoup de personnes ont dû partir à cause de ces situations. Par exemple, en Irak, avant l'invasion américaine en Irak, avant 2003, il y avait peut-être à peu près 1 million de chrétiens en Irak. Et aujourd'hui, c'est plus de la moitié moins. Plus d'un million de chrétiens sont partis. En Syrie, comme on le sait, il y a une guerre terrible actuellement. Eh bien, en 7 ans, plus de la moitié des chrétiens ont dû partir. Au Pakistan, le nombre de chrétiens diminue régulièrement aussi, etc. Donc il y a des pays où cette situation qu'on voit dans le livre d'Esther, on la retrouve. Il y a d'autres pays, il n'y a pas que les pays en guerre qui sont sous la pression islamiste. Il y a d'autres pays comme la Corée du Nord avec un régime totalitaire qui reste toujours en tête de liste de la persécution et où là-bas être chrétien c'est tout simplement pas possible. Et dès que vous présentez, dès qu'on sait que vous êtes chrétien ou dès qu'on trouve une Bible sur vous, etc., eh bien non seulement vous êtes en danger mais toute votre famille. Ce qui fait qu'en Corée du Nord, même si vous êtes chrétien, vous n'osez même pas en parler à votre femme ou à vos enfants, surtout pas à vos enfants, parce que vous avez peur que s'ils répètent quelque chose à un moment donné à l'école ou comme ça, eh bien que vous mettiez toute votre famille en danger. C'est une situation extrême. Ça reste le pays où la persécution est la plus forte. En Inde, par exemple, eh bien on trouve ce projet totalitaire aussi chez certains extrémistes hindous qui voudraient que l'Inde soit une nation indienne et hindoue exclusivement et qui voudraient que les musulmans et les chrétiens soient exclus. Un petit peu comme ce projet d'Amam dans Esther qui voudrait se séparer, qui voudrait se débarrasser de tout un peuple qu'il estime ne pas avoir sa place dans un empire. Alors c'est une situation qu'on retrouve aujourd'hui et qu'on retrouve tout au long de l'histoire. Et quelque part, j'ai l'impression qu'à travers l'histoire, on voit apparaître souvent deux stratégies pour combattre les enfants de Dieu. L'une, c'est une tentative de destruction. L'autre, c'est une tentative de séduction. Et on se retrouve souvent soit dans l'un, soit dans l'autre. Et si vous regardez à travers l'histoire d'Israël, vous rencontrez des périodes où il y a eu des tentatives de détruire le peuple d'Israël définitivement, et il y a eu des tentatives de le séduire, de l'amener à se détourner de Dieu. Mais on trouve une alternance de ces deux stratégies-là dans l'histoire du peuple d'Israël, dans l'histoire de l'Église, peut-être dans nos propres vies aussi, avec des moments où on a l'impression que, le diable s'attaque à nos vies et essaie de détruire notre foi en Dieu à travers des circonstances, et d'autres moments où il essaie plutôt de nous éloigner de manière plus subtile. Ces deux constantes, j'ai l'impression qu'on trouve. Et si on regarde dans la vie de Jésus, on les trouve aussi, ces deux éléments-là, avec des moments où il y a eu comme un projet de destruction de Jésus, à sa naissance par exemple, hein, avec le meurtre, l'assassinat systématique des nouveau-nés. On a essayé de tuer Jésus dès le départ. Mais un peu plus tard, il y a eu une stratégie de tentation aussi sur Jésus. Donc Jésus a connu aussi, au sein de sa propre vie, ces deux confrontations-là. Et aujourd'hui, on parle d'une église, l'église persécutée, qui, je pense, est en plein dans une stratégie, confrontée à cette stratégie, à une tentative de destruction. La bonne nouvelle, c'est que jusqu'à maintenant, ces tentatives n'ont jamais abouti. Et ce qu'on sait, c'est qu'elles n'aboutiront jamais. Et ça, c'est la bonne nouvelle, et c'est ce qui doit nous rassurer. Et quand on regarde à l'Église persécutée, ou quand on regarde aux circonstances du monde qui semblent nous dépasser, eh bien, on peut vraiment être rassuré de savoir que la partie est déjà gagnée. Parfois, on a l'impression d'assister comme à une partie d'échec, mais on sait déjà à la fin qui va gagner. Simplement, il y a un pion qui est avancé. On se dit, quelle stratégie est-ce que Dieu va avoir pour contrer ça? Mais il a toujours une stratégie prévue. Moi, j'aime bien regarder les courses de ski, par exemple, en hiver. En ce moment, il y en a une, là. Il y a un slalom qui est en train de se dérouler. C'est la première manche. Alors, ce soir, peut-être que je regarderai en replay quelques-uns des slalomeurs qui sont descendus. Mais quand on regarde en différé et qu'on sait déjà qui a gagné, vous regardez, puis tout d'un coup, vous voyez un temps intermédiaire que votre favori a un petit peu de retard. Mais vous savez qu'à la fin, il va gagner. Ben, vous n'êtes pas inquiet. Vous dites, tiens, c'est marrant. Je me demande comment il va s'en sortir pour repasser devant et... Vous le voyez glisser un petit peu, vous vous inquiétez, mais vous savez qu'il ne va pas sortir. Donc vous êtes relax, quoi. Vous pouvez manger vos petits chips, tranquille, tout va bien. Mais si vous regardez en direct, là vous êtes... on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas s'il va gagner, on ne sait pas. Ce n'est pas du tout la même sensation. Mais nous, on a la chance de pouvoir regarder cette partie qui se joue un petit peu comme en replay, parce qu'on sait déjà exactement qui va gagner à la fin. Et ça, pour nous, ça nous permet de traverser ces circonstances avec beaucoup de calme, je pense, et de confiance en Dieu. Alors quand on voit des échéances électorales, quand on voit des gens qui remportent des élections et qu'on se dit « Ouh là là, vraiment là, ils se sont trompés, ils n'auraient pas dû choisir celui-là. » Eh bien, on peut être rassuré de se dire « Mais Dieu est au contrôle. » Voilà, c'est pas grave. Oui, il y aura peut-être des conséquences. Oui, c'est pas la situation idéale qu'on aurait souhaité, etc. C'est un pion différent qui a été avancé sur l'échiquier que celui que j'aurais souhaité voir avancer. Mais en face, il y a une stratégie. Donc, ne soyons pas inquiets. Un des historiens de l'Église primitive qui était confronté à une persécution, cette Église primitive disait, en fait, plus vous nous attaquez et plus on grandit. Et il disait, le sang des martyrs est une semence pour l'Église. C'est Tertullien qui disait ça. Il disait, mais en fait, plus vous essayez de nous combattre et plus vous atteignez exactement l'inverse. Et je crois que ça doit nous remplir plein de confiance quand on parle de ces thèmes-là comme l'Église persécutée ou comme l'ONU aussi, qui est quelque chose de lointain et qui des fois est un peu inquiétant. Eh bien, Dieu est aux commandes, il est au-dessus de tout ça, c'est lui qui règne. L'histoire d'Esther le montre aussi, et dans cette histoire d'Esther, eh bien, comme vous le savez, à un moment donné, la situation paraît totalement désespérée. Après les versets qu'on a lus, il y a un échange entre Esther et son cousin Mardoché. Donc Mardoché lui dit, Esther, là il va falloir que tu fasses quelque chose, et il l'informe, et il l'informe vraiment dans les détails de tout ce qui se passe. Il lui fournit même une copie de la loi. Alors déjà aujourd'hui, quand vous avez une copie d'une loi, vous êtes déjà bien renseigné, mais c'est pas très compliqué. Mais à l'époque, je m'imagine que d'avoir une copie de la loi, c'était quelque chose quand même. C'était pas tout le monde qui avait une copie de la loi, puisqu'il n'y avait pas forcément des photocopieuses ni d'autres choses de ce genre-là. Donc d'avoir une copie de la loi, ça veut dire que vraiment là, elle était au top, elle était bien renseignée, elle savait exactement ce qui se passait. Mais elle répond à Mardoché, elle lui dit, Mardoché, moi, comme tu le sais, je suis juive, mais j'ai jamais dit à personne que j'étais juif ici, surtout pas à l'empereur. Et donc, si je lui dis ça, ou si je vais le voir directement sans être invité, je risque ma vie. Et à ce moment-là, Mardoché lui répond et dit, voilà, on rapporta donc à Mardoché les paroles d'Esther. Et Mardoché lui répondit, ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé, au contraire de tous les Juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait ? Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Ces paroles vont toucher Esther et vont représenter un tournant. Esther va être interpellée par Mardoché et va décider ensuite de dire ben, « Ok, je vais y aller, je vais aller parler à l'empereur. Si je dois mourir, je mourrai. Vous priez pour moi maintenant. » Elle demande aux juifs, à la communauté juive de prier pour elle et de jeûner pendant 3 jours. Et ensuite, elle prend le courage d'y aller. Et elle monte une stratégie très fine. Elle ne décide pas juste d'y aller à la fleur au fusil, mais vous voyez qu'elle monte une stratégie assez fine pour arriver à ses fins. Et par l'intervention de Dieu aussi, qui permet des circonstances miraculeuses qu'elle ne pouvait pas prévoir, eh bien, elle va réussir à être utilisée par Dieu pour sauver les Juifs finalement. Et là, il y a plusieurs choses qui m'interpellent et qui sont en lien avec notre ministère à l'ONU. Tout d'abord, cette interpellation de ne pas se taire. Quitte à prendre des risques, parler c'est pas toujours évident, hein. On s'expose, parler en public, parler à l'ONU, parler dans ces endroits là ça demande du courage, mais je crois que quand on a une cause juste à défendre, il faut le faire. Et puis ensuite, moi j'aime bien cette phrase, mais peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu as été placé à l'endroit où tu es. Et ça c'est quelque chose qui est vrai pour chacun de nous. Je sais pas où Dieu vous a placé, mais Dieu nous place à un endroit et c'est pas par hasard. Ces circonstances, elles arrivent, sauf erreur, à peu près une dizaine d'années après le début du livre d'Esther. Donc Esther, elle a passé plusieurs années comme femme de l'empereur avant que, quelque part, Dieu lui révèle pourquoi est-ce qu'il l'avait placée là. Mais elle a été placée là pour un but. Et je pense que nous aussi, partout où nous sommes placés là, puis tout d'un coup, à un moment donné, Dieu peut nous dire, mais tu vois, en fait, je t'ai mis là, mais là maintenant, tu as une mission particulière à accomplir. Alors soyons à disposition de ça, soyons à l'écoute. Et ce qui est beau, c'est que ces personnels peuvent être utilisés à tous les niveaux. Et ici, Esther, elle est utilisée pour influencer l'homme le plus puissant de la planète à cette époque-là, l'empereur Xerxès. Et je crois qu'on est appelé aussi à être ces personnes-là à tous les niveaux de la société, y compris à l'ONU. Et c'est ce que j'essaie de faire dans une partie de mon travail. Alors, en quelques mots, voilà, ça c'est avec mon collègue là, à l'ONU. Mon parcours en quelques mots, comment je suis arrivé là, c'est une surprise pour moi aussi. C'était pas forcément quelque chose que j'avais prévu ou anticipé. J'ai fait une formation en relations internationales. Au fond de moi, j'avais toujours ce désir un peu idéaliste de changer le monde. Et puis, donc j'ai travaillé pour une organisation non gouvernementale à l'ONU, donc dans une organisation catholique. Et donc là, j'ai beaucoup appris, beaucoup développé de compétences, découvrir comment on pouvait faire un travail efficace à l'ONU dans le domaine des droits de l'homme. Et par la suite, je constatais en même temps que les évangéliques n'étaient pas représentés à l'ONU, très peu. Et ça me posait question. Je voyais que les autres courants religieux avaient des fois des représentants qui étaient assez efficaces. Les Baha'i, ils ont des représentants qui font un bon travail pour protéger cette communauté qui est persécutée notamment en Iran, mais dans d'autres pays. Les musulmans sont principalement, leurs intérêts sont principalement défendus par des États qui portent aussi ces intérêts-là. Voilà, les chrétiens, ben, y a le Vatican qui participe, il y a beaucoup d'ONG catholiques qui font un bon travail, mais quelque part les évangéliques étaient très peu présents et ça m'a interpellé. J'avais à cœur de pouvoir développer quelque chose. J'ai été recruté au réseau évangélique suisse et à ce moment-là je disais, mais je suis d'accord de travailler au réseau évangélique suisse, mais en parallèle j'aimerais qu'un jour le travail à l'ONU puisse démarrer, une représentation des évangéliques à l'ONU. Finalement ça a été rendu possible. L'Alliance évangélique mondiale m'a dit, vas-y, on est content que tu fasses ce travail-là. Voilà, il faut que tu trouves les moyens un petit peu toi-même par contre, mais vas-y. Ça c'est aussi un petit peu évangélique des fois, hein. Génial, fonce. Et par la grâce de Dieu, ben, des moyens sont venus sans trop chercher. Je sais pas, c'est pas forcément mon fort non plus d'être un grand fundraiser comme ça. Et finalement, on a pu démarrer. Puis un autre cadeau incroyable qui est venu, c'est pour ça que j'ai mis cette photo, c'est Albert, mon collègue Albert, qui est un directeur d'ONG qui est retraité, qui a pris une retraite anticipée, et qui est venu à Genève avec cette conviction. Il avait à cœur de servir Dieu à Genève. C'était pas encore tout à fait clair, mais voilà, il avait une conviction de venir. Et ça faisait 2 semaines que je commençais mon nouveau travail au réseau évangélique suisse. Et voilà qu'il se pointe à ma porte avec sa femme et qu'il vienne comme ça me rencontrer. Et quelques semaines plus tard, il me dira, écoute, moi, j'aimerais travailler avec toi bénévolement, si tu es d'accord. Et recevoir des bénévoles, vous savez, des fois, on reçoit des bénévoles, mais qui sont pas... Certains, ils sont d'une aide. D'autres, c'est plus qu'il faut les aider, eux, pour, hein, vous savez. Des fois, on a des bénévoles qui sont pas forcément à la bonne place. Hein, mais voilà, là, c'était un bénévole, mais c'était un type incroyablement compétent, quoi. C'était juste... c'était génial. Donc, on forme une super équipe. Il a beaucoup plus de temps à disposition que moi pour suivre les réunions à l'ONU. Donc moi, je vais à certaines rencontres stratégiques. Lui, il passe 6 mois par an ici et 6 mois par an en Hollande. Mais les 6 mois où il est là, ben, il est à fond disponible et c'est génial. Et toutes ces choses-là m'ont fait dire, ben voilà, j'avais l'impression aussi que Dieu était en train de préparer quelque chose et que ça venait de lui, quoi. Ça nous a beaucoup encouragés. Alors voilà, ça c'est en fait c'est ça la salle où on est à Genève. La salle que vous avez vue tout à l'heure, c'est une salle de l'ONU, mais à New York. Et ça, c'est la salle où se réunit le Conseil des droits de l'homme. Il semblerait qu'elle ait été financée par l'argent qui était destiné à l'aide au développement de la part du gouvernement espagnol, ce qui a créé certaines polémiques pour savoir si c'était vraiment de l'aide au développement d'investir cet argent-là. Mais en tout cas, c'est une très belle salle, bien équipée, et surtout, c'est un endroit où, en quelques minutes, vous avez accès à des représentants de tous les gouvernements du monde. Ils sont tous là. Et nous, en tant que ONG accrédité à l'ONU, eh ben, en quelques minutes, on peut accéder à des gens avec lesquels il serait très difficile d'obtenir un rendez-vous. Mais là, vous pouvez, ça fait partie de notre travail, on a le droit d'aller vers ces gens, de les rencontrer, de les aborder. Ils en ont l'habitude aussi, c'est tout à fait normal. Il y a un dialogue constant avec les ONG. Donc nous, en tant qu'Alliance évangélique mondiale, on est comme une ONG, en fait, une organisation non gouvernementale, comme Amnesty International, comme toutes ces organisations qui sont là. On a le même statut. Et donc on peut aller, on peut discuter avec ces gens et on peut leur parler des préoccupations qu'on a à transmettre. Alors, en général, on a un temps de parole assez limité. Je suis content d'avoir un tout petit peu plus ici ce matin parce que là-bas, quand vous parlez, vous avez un grand chronomètre qui s'affiche devant vous. Et en général, nous, on a 2 minutes. Et donc, au bout de 2 minutes, le président, voilà, il vous coupe le micro et c'est au suivant. Il y a tellement d'intervenants que ce ne serait pas possible autrement. Donc il faut bien se préparer et essayer de penser aux traducteurs aussi et d'adopter un rythme qui permette à ce que la traduction dans toutes les autres langues officielles de l'ONU puisse bien se faire. Mais c'est extraordinaire d'avoir cette opportunité de prendre la parole à cet endroit-là, d'être écouté par les représentants de tous les États du monde. Et vous savez aussi que ces États, après, ils vont transmettre ce qu'ils reçoivent à leur capitale. Et donc quand vous avez une situation dont vous avez connaissance, que tout d'un coup vous la mentionnez à Genève, que l'ambassade transmet à sa capitale, bah, à Genève, il y a des ONG qui parlent de cette situation-là, ça permet tout d'un coup des fois de mettre des choses en route. Nous, notre but, hein, c'est de connecter, donc de mettre en lien les évangéliques qui sont sur le terrain avec l'ONU, donc de servir de courroie de transmission pour que les préoccupations qu'il y a sur le terrain, que l'Église a sur le terrain, eh bien que nous, on puisse simplement la véhiculer. Donc notre but, ça va être d'inviter les alliances évangéliques et on leur demande, mais qu'est-ce qui vous préoccupe dans votre pays? Qu'est-ce qui vous pose problème? Est-ce que c'est la persécution? Est-ce que c'est l'injustice? Est-ce que c'est la traite des êtres humains? Est-ce que c'est la pauvreté? Etc. Donc ils vont nous faire des propositions. On rédige un rapport avec eux. On les invite à Genève. Ils vont sensibiliser les diplomates à ce thème, pour que les diplomates, après, relayent ces préoccupations. Parce qu'une des clés de ce travail-là, c'est de trouver de bons relais. Parce que vous, si vous parlez, c'est bien, c'est une chose, mais si vous trouvez d'autres qui reprennent ce que vous dites, c'est encore mieux, surtout quand c'est d'autres États. Et donc là, d'arriver à convaincre d'autres États de reprendre vos thèmes, eh bien, c'est aussi toute une partie de la stratégie pour arriver à ce que vous soyez entendus. Donc voilà, alors... Si dans tous les pays, on avait une alliance évangélique bien organisée et capable de, voilà, qui nous rend capable de trouver un interlocuteur qui soit représentatif, etc., ça serait bien. Dans la réalité, c'est parfois un tout petit peu plus compliqué. Voilà, là aussi, c'est un petit peu, hein, les évangéliques, voilà, ça foisonne, c'est génial, il y a plein de choses, mais après, des fois, ce n'est pas toujours simple de trouver l'interlocuteur représentatif. Alors, dans certains pays, c'est le cas, comme en Suisse, avec le réseau évangélique suisse, qui est un interlocuteur pour l'Alliance évangélique mondiale, mais dans d'autres pays, c'est plus compliqué que ça. Mais ce n'est pas grave, notre travail, c'est justement de contribuer à ce que l'Église s'organise un petit peu aussi et se mette ensemble. Voilà, donc je dirais, on travaille, hein, on reçoit des données, des informations au niveau local. Après, notre travail est au niveau national. Hein, comme avec Esther qui devait combattre une loi, eh ben, nous aussi, ça va être souvent des lois, ça va être des politiques, etc., qu'on va devoir dénoncer ou proposer autre chose. Et puis, on fait ça à travers un plaidoyer au niveau international. Mais le but, c'est de passer par ces plateformes internationales pour avoir des changements au niveau national et finalement local. Voilà, alors c'est un petit peu théorique tout ça, il faut que je vous donne un exemple. Un bon exemple vient d'Italie, on ne s'attendrait pas forcément à l'Italie, mais c'est un exemple de persécution, puisque en 2012, en Italie, dans une région du nord de l'Italie, dans la Lombardie, qui était, qui est peut-être sans doute toujours fortement sous l'influence d'un parti de droite, bien à droite, qui s'appelle la Lega, et ce parti avait adopté une législation qu'en Italie ils ont appelée la législation anti-mosquée. Et dans cette législation, c'était une législation sur l'organisation du territoire, donc c'était assez c'était fin, et derrière cette loi se cachait en fait le projet que, à part les églises qui ont déjà des bâtiments établis qui ressemblent vraiment à des églises, et ben tous les autres lieux de culte deviennent illégaux. Autrement dit, principalement l'église catholique et quelques anciennes bâtisses valdésiennes ou baptistes étaient légales, mais toutes les autres ne l'étaient pas. L'argumentation, c'était de dire qu'il fallait que les églises se réunissent dans des lieux de culte qui avaient été construits à l'origine pour être un lieu de culte. Donc toutes les églises évangéliques qui se réunissent dans des bâtiments industriels ou anciennement des bâtiments commerciaux ou un ancien cinéma, etc., tout ça était considéré comme illégal parce que ça n'avait pas été construit dans le but d'être un lieu de culte, affecté comme un lieu de culte dès le départ. Alors cette loi, ils ne l'ont pas utilisée contre toutes les églises, c'était plutôt une épée de Damoclès qu'ils ont utilisée contre les lieux de culte qu'ils n'aimaient pas. Donc d'une part, ça a été une loi pour empêcher la construction de mosquées, mais d'autre part, c'est quelque chose qui s'est retourné aussi contre les églises, et spécialement contre les églises issues de la migration. Donc tout d'un coup, à l'été 2012, une série de lieux de culte se sont retrouvés fermés, comme ici par exemple. Là, c'était la police est venue et a séquestré, a décidé de confisquer en fait les locaux et même les biens qui étaient dans le local, qui avaient été durement payés, économisés par une église africaine avec peu de revenus. Et donc voilà, tout d'un coup, plusieurs dizaines de lieux de culte et d'églises, c'était même des lieux de culte où il y avait 4-5 églises qui se réunissaient, donc plusieurs dizaines d'églises qui sont affectées par cette décision. Comme c'était une décision régionale, le gouvernement central a dit « bon, bah, c'est pas vraiment de notre faute, faut voir avec eux, etc. » Donc les églises ont essayé de combattre ça. Certaines églises ont pu réouvrir, d'autres sont restées fermées. L'Italie n'a pas tellement bougé sur ce dossier. Au bout de 2 ans, donc, l'Alliance évangélique italienne, qui était en contact avec nous a dit « mais ça serait bien que vous fassiez quelque chose ». On a soumis un rapport avec eux, on a expliqué cette situation, on a invité des pasteurs à venir d'Italie à rencontrer les diplomates. Alors les diplomates avaient de la peine à nous croire, ils ne pensaient pas qu'il y avait des églises qui étaient fermées en Italie. Et ils nous disaient « ouais, mais bon, vous comprenez, nous, si on soulève ça avec l'Italie, ça va nous causer des problèmes, etc. » Ils ont dit « bon, on va en parler avec eux de manière bilatérale, en privé, mais on ne peut pas publiquement dénoncer ça, ça mettrait en danger nos bonnes relations et tout ça. » Donc on sentait que c'était pas facile, et c'est pas toujours simple, hein, d'arriver à gagner sa cause. Alors on a quand même continué, puis on a soumis ce rapport, on a fait des déclarations et à plusieurs reprises, et on a rencontré aussi des délégués italiens qui nous ont dit « mais c'est vrai que ce que vous soulevez, c'est un gros problème, il faut qu'on fasse quelque chose ». Après une de nos déclarations, on avait un coup de fil de Rome, donc du ministère de l'Intérieur, c'était, et qui nous ont dit « mais effectivement, c'est quelque chose qu'on va prendre désormais au sérieux ». Et quelques mois après, on a appris que le gouvernement italien avait demandé à la Cour suprême italienne, la Cour constitutionnelle, d'examiner cette loi et de juger si elle était valable au regard de la Constitution. Et puis au début de cette année, la Cour a dit que non, cette loi n'était pas valable, en tout cas en grande partie qu'elle n'était pas valable. Et donc on était très reconnaissants de cette décision de la Cour. Donc et puis il faut continuer maintenant parce qu'en fait, ces partis sont toujours là, il y a d'autres tentatives qui sont toujours là pour essayer de bloquer l'ouverture de lieux de culte autres que catholiques, on va dire. Alors il y a plusieurs leçons de cette histoire que j'ai envie de vous dire. Ben, d'une part, nous, on doit se battre pour la liberté pour tous. Parce que si on ne se bat pas pour la liberté pour tous, mais qu'on se bat juste pour la liberté des chrétiens, en fait, tôt ou tard, ça va nous retomber dessus. Parce que quand on ne se bat pas pour la liberté pour tous, et ben, finalement, à la fin, il y a liberté pour plus personne. Si on veut la liberté religieuse pour les chrétiens, il faut qu'on l'accepte aussi pour d'autres, même ceux avec lesquels on n'est pas d'accord et qu'on ne pense pas forcément que ce qui est dit là-bas est bon ou est la vérité. Il y a d'autres moyens de combattre l'erreur que d'interdire l'erreur. C'est par l'enseignement, c'est en exerçant notre liberté religieuse, notre liberté d'expression, qu'on va pouvoir aussi combattre des enseignements avec lesquels on n'est pas d'accord. Mais de les interdire, ce n'est pas la solution. Parce que si on commence à interdire ceux avec quoi on n'est pas d'accord, un jour, ça sera nous qui serons interdits. Parce que ce que nous, on dit, il y a bien des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec ce qu'on dit. On n'est pas majoritaire. Donc il faut protéger les minorités religieuses et ça implique de les protéger toutes. Là, on a vu, c'était une loi qui ciblait principalement les mosquées, mais concrètement, ce sont beaucoup d'églises évangéliques qui en ont souffert. L'autre chose, c'est vraiment une histoire où vous voyez comment une situation locale est passée au niveau national et international, et comment le niveau international, en soumettant des rapports à l'ONU, on a pu prendre une influence sur le niveau national, ou contribuer en tout cas, et permettre à ce qu'au niveau local, la situation soit améliorée. Donc voilà, ça c'est un exemple du travail qu'on peut faire. Et ce que ça nous montre aussi comme leçon, c'est que l'ONU, c'est un endroit, c'est pas un monstre, c'est une plateforme. C'est un endroit où les États du monde se rencontrent et où ensemble ils prennent des décisions. Et forcément, c'est un reflet du monde. Donc c'est un endroit où la politique joue un rôle fort, où il y a des décisions qui sont prises avec lesquelles parfois on est d'accord, parfois pas d'accord. C'est un endroit où la défense des intérêts politiques passe bien souvent avant la défense des intérêts des gens. Et donc ça, c'est une réalité. Mais en même temps, c'est un endroit où on peut venir s'exprimer, où on peut venir essayer d'avoir une influence. On peut essayer de parler à des personnes qui ont un pouvoir important, qui sont des représentants des gouvernements du monde entier. Et donc, ça reste une plateforme unique. Et il se trouve qu'ici, à Nyon, on est presque voisins du Palais des Nations, qui est tout près d'ici. Et donc, moi, j'aimerais vous encourager tout particulièrement à avoir à cœur aussi cet endroit-là, à prier pour lui, à prier pour ses autorités. On pense souvent à prier aux autorités, puis aux autorités communales et nationales. Mais pourquoi pas prier aussi spécialement pour l'ONU, qui est pas très loin d'ici, mais qui est un endroit où tout un tas de décisions stratégiques sont prises, et prier spécialement pour tous ces ambassadeurs, pour tous ces ministres, ces représentants de gouvernement qui s'y rencontrent, pour que ça soit un endroit où ils prennent des bonnes décisions, pour qu'il puisse y régner un esprit de paix, un esprit de dialogue, et que ça soit un endroit qui aboutisse sur des accords qui soient bons pour les gens sur le terrain. Actuellement, on travaille sur un rapport sur l'Algérie. C'est un des trois pays que le groupe de travail pour la liberté religieuse proposait pour ce dimanche de l'Église persécutée. Et en Algérie, les chrétiens d'Algérie nous ont dit, nous on aimerait, voilà les thèmes qu'on aimerait que vous souleviez. C'est une petite église en Algérie, ils sont 30 000. Il y a moins de protestants qu'en Algérie, pour tout le pays, qu'il y a d'évangéliques en Suisse romande. C'est une petite église. Mais c'est une église qui a du courage, qui grandit, qui se lève et qui avait envie aussi de demander, de réclamer certaines choses parce qu'ils estiment qu'en Algérie, même s'ils bénéficient de certaines libertés, eh bien, ils sont traités quand même comme des citoyens avec moins de droits que les musulmans. Il y a une loi qui existe depuis 2006, une ordonnance qui est régulièrement utilisée pour mettre la pression sur les églises et qui est utilisée pour qui les oblige à s'enregistrer et qui interdit le prosélytisme, qui leur interdit d'avoir du matériel qui pourrait ébranler la foi d'un musulman. Et donc cette loi, elle est régulièrement utilisée contre les églises évangéliques. Donc ils nous ont demandé, voilà, rappeler que cette loi est toujours là et que cette loi, on aimerait qu'elle soit supprimée. Ils nous ont dit aussi, il y a tout un tas d'injustices qu'on subit. Par exemple, ils nous disaient, ben, en Algérie, une Algérienne n'a pas le droit de marier un étranger qui ne soit pas musulman. C'est-à-dire que si une Algérienne veut, même si elle est chrétienne par exemple, si elle veut marier un Suisse si ce Suisse n'est pas musulman, elle n'aura pas le droit de le marier. Ou en tout cas, le mariage ne sera pas reconnu en Algérie. Donc ça, c'est le genre d'injustice que l'Église subit et qui nous demande de soulever. Ils nous ont rappelé aussi la loi sur le blasphème qui est toujours en place là-bas et qui peut être utilisée contre les chrétiens ou contre ceux qui oseraient, faire une déclaration qui serait jugée comme provocante. Donc c'est le genre de situation que nous, on va compiler dans un rapport, on va essayer de bien présenter les faits et de les soumettre à l'ONU pour essayer d'atteindre certains changements. Alors voilà, ça c'est un petit aperçu du travail qu'on fait. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez avoir d'autres exemples, je serai encore là tout à l'heure. Mais en tout cas, je vous remercie pour vos prières, pour ce travail. N'oubliez pas que Dieu est au contrôle, donc qu'on ne doit jamais avoir peur. Même quand vous entendez des choses de l'ONU qui sont bizarres ou avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise, c'est vrai, mais prenez-les avec prudence. Il n'y a pas que des mauvaises choses qui s'y font. Il y a aussi beaucoup de bonnes choses dont on ne parle pas toujours. Priez pour tout ce qui s'y fait à l'ONU. Et vous pouvez prier aussi pour notre ministère de représentants de l'Alliance évangélique mondiale, où on essaie d'être cette courroie pour les 600 millions d'évangéliques dans le monde. Voilà, je vous remercie.